Radio Classique, les spécialistes.
7h38 sur Radio Classique, les spécialistes Élodie Dimitri et Bernard Sananès, le président d'ELA. Bonjour Bernard.
Bonjour Renaud.
On va essayer de décrypter ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que nous les journalistes, on a un énorme défaut. Depuis environ un mois, on parle de journées cruciales, de semaines cruciales, de manifestations cruciales. Et finalement les choses n'avancent pas beaucoup. Ce qui s'est passé hier était quand même assez étonnant. Déjà, j'allais dire sur la question des chiffres donnés. La CGT annonce 1 700 000 personnes dans la rue. Le ministère de l'Intérieur, 450 000. Alors je sais qu'il y a toujours eu des différences entre le comptage de la place Beauvau et le comptage des syndicats, mais là quand même on atteint des sommets, Bernard.
Oui Renaud, mais comme vous l'avez dit, on a plutôt l'habitude. Ce qui est toujours intéressant, vous savez, dans ces chiffres de mobilisation, comme d'ailleurs dans les chiffres des enquêtes d'opinion, c'est de voir les évolutions sur les mêmes sources. Et on peut dire hier que la mobilisation reste forte, mais qu'elle semble en légère baisse, comme d'ailleurs on peut dire que dans l'opinion, le soutien à la mobilisation reste majoritaire, mais il a été lui aussi mesuré par tous les sondages dans ce lab cette semaine, plutôt en léger recul. Donc je dirais que les syndicats, passez-moi cette expression, mènent toujours au point. Nettement, la réforme des retraites telle qu'elle est voulue par le gouvernement, et notamment, on en parlera sans doute de l'âge pivot, est majoritairement rejetée dans l'opinion. Mais pour autant, personne ne l'emporte par chaos. On n'est pas à 70-30, on n'est pas à une opinion qui serait tranchée. Elle est très partagée et d'ailleurs, elle est très complexe à suivre.
Donc la guerre de tranchées, si je vous comprends bien, Bernard, se poursuit.
Oui, elle se poursuit parce que personne n'a réussi, encore une fois, à marquer de point. Ce qui est très frappant, par exemple, c'est que jusqu'à présent, je suis prudent parce que cela peut-être basculer si on entame une nouvelle semaine de grève. Jusqu'à présent, contrairement à d'autres conflits, l'opinion ne s'est pas non plus retournée fortement contre le gouvernement en lui disant « bon, maintenant ça suffit, il faut sortir de la grève ». Et à l'inverse, l'opinion ne s'est pas non plus retournée contre les syndicalistes. Et donc on voit bien que ces équilibres-là ne bougent pas, vous l'avez dit, on a l'impression d'un statu quo. On pensait qu'il y aurait des avancées sur la négociation et notamment sur l'âge pivot. Pour l'instant, il ne se passe rien. Encore une fois, je suis prudent. Moi, je ne suis pas certain que ce statu quo perdure. Je pense qu'à un moment, il peut y avoir un événement qui fait que l'opinion évolue d'un côté ou d'un autre de manière assez forte. On surveillera notamment ce qui se passe en Île-de-France. Mais là aussi, vous savez, c'est assez paradoxal. Le soutien à la mobilisation, le soutien aux grèves en Île-de-France recule, mais il reste, lui aussi, légèrement majoritaire, une majorité relative seulement, alors qu'en Île-de-France, 3/4 des habitants nous disent être impactés régulièrement par la grève.
Vous parliez de l'âge pivot, Bernard. Évidemment, c'est un point essentiel. Et vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, les Français sont contre cette idée d'âge pivot à 64 ans.
Alors, vous savez, Renaud, si on prend, pour faire simple, les trois principes de la réforme. Un, la suppression des régimes spéciaux. Il y a une très large majorité de Français, plus des deux tiers, qui sont favorables à cette suppression des régimes spéciaux. Si on prend le principe du régime universel à points, il y a une courte majorité favorable, mais c'est moins qu'au début de la discussion sur la retraite à l'automne. Et par contre, il y a la mesure de l'âge pivot. Celle-ci, j'allais dire, elle cristallise l'opposition. Près de 2/3 des Français y sont opposés. Ce chiffre est encore plus élevé chez les actifs, ceux qui travaillent dans les milieux populaires, et quasiment dans la plupart des électorats, à l'exception des électorats de droite et d'Emmanuel Macron, mais qui n'y sont favorables qu'à une courte majorité. Donc même pour l'électorat d'Emmanuel Macron, on est favorable à l'âge pivot, mais je dirais ce n'est pas un totem. Donc on voit bien que c'est la mesure aujourd'hui qui cristallise l'opposition.
C'est par où la sortie, titre Le Parisien, avec un gros point d'interrogation. Pour vous, et ça sera ma dernière question, Bernard, Édouard Philippe est encore maître du jeu. Il a encore les bonnes cartes dans les mains ou pas?
En tout cas, pour l'instant, le Premier ministre s'est un peu révélé. Il a révélé, j'allais dire, une marque qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Il était le numéro 2 d'Emmanuel Macron. Il veut montrer qu'il est, j'allais dire, aussi réformateur que le président de la République. Il a un risque, le Premier ministre, c'est que ce sentiment de blocage, ce sentiment qu'il n'ouvre pas assez les choses, se retournent à la fin contre lui.
Merci Bernard. Bernard Sananès, le président d'Elab ce matin sur l'antenne de Radio Classique. On va bien sûr poursuivre sur cette question de la réforme des retraites avec vous, Dimitri. Je vais essayer de m'expliquer les choses parce que c'est quand même extrêmement complexe. Le gouvernement semble intransigeant sur l'âge pivot, quoique...
Oui, quoique, alors juste pour revenir sur ce que disait Bernard, c'est très intéressant, il disait 2/3 des Français soutiennent le principe de la réforme par point. En revanche, ils sont contre l'âge pivot, c'est un petit peu normal, c'est-à-dire que ce genre de réforme paramétrique qui vise à faire des économies et donc peut-être à réduire les pensions, c'est forcément impopulaire. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le Premier ministre a tant tenu à lier les deux sujets en se disant « profitons d'une réforme populaire pour faire accepter ». Un point impopulaire.
Il est assez intransigeant sur la question de l'équilibre.
Exactement. Ben oui, mais l'âge pivot n'a pour objectif finalement que l'équilibre du système à terme. Alors, l'âge pivot, le gouvernement est intransigeant, certes, sauf que il est en train quand même de se ménager des portes de sortie. C'est ce qu'il dit. D'ailleurs, quand il propose, il accepte l'idée de cette conférence de financement.
On va en parler ce matin, d'ailleurs, hein, Matignon. Voilà.
Qui vise en fait à dissocier le sujet. Enfin, c'est-à-dire en fait, la conférence de financement. Pourquoi ? C'est dire aux syndicats, vous êtes contre l'âge pivot, ben faites-nous des propositions qui nous permettent d'arriver au même résultat. L'équilibre financier. Et c'est ce fameux cocktail de mesures, l'expression en vogue depuis 2-3 jours. Alors, cocktail de mesures, de quoi on parle concrètement ? Il n'y a pas 36 solutions, je vous l'ai déjà expliqué, pour faire des économies sur les régimes de retraite. Soit vous allongez la durée du travail, vous travaillez plus longtemps. Donc, c'est le principe de l'âge pivot. Hein. Et dans le projet de loi qui a été présenté hier, dont le texte a été présenté, il y a deux textes, l'idée de cet âge pivot, c'est qu'il soit progressivement mis en place pour arriver à cette borne d'âge de 64 ans dont tout le monde parle d'ici 2027. Donc, ça se ferait petit à petit. Travailler plus longtemps, c'est aussi ce que prévoit la réforme Touraine qui a été adoptée en 2014.
Oui.
Aujourd'hui, vous cotisez 41 ans et demi. D'ici 2035, il faudra travailler 43 ans pour toucher sa retraite à taux plein. Ça se fait au rythme d'un mois supplémentaire de cotisation par an jusqu'en 2035. L'idée, ce serait, allez, on passe à 4 mois, on passe à 4 mois supplémentaires par an. Donc, on y serait beaucoup plus rapidement à ces 43 années de négociation. L'autre option, alors celle-là, elle n'est pas très populaire, hein, vous diminuez les pensions. Comme ça, si vous baissez les pensions, forcément, vous réduisez le déficit. C'est politiquement très compliqué, mais ce n'est pas inenvisageable. Hein. Le Conseil d'orientation des retraites, avait dit « si vous plafonnez la revalorisation des retraites à 1% par an, on y sera à ces économies. » Pourquoi ? Parce que l'inflation est plus importante qu'1%, et donc on fera des économies. Le problème, c'est que, je vous rappelle qu'après les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a réindexé sur l'inflation les petites pensions. Est-ce qu'il peut réindexer pour les uns et pas pour les autres ? Politiquement très sensible. Enfin, vous avez le troisième sujet, la troisième possibilité. Si on ne peut pas travailler plus longtemps, si on ne veut pas baisser les pensions, eh ben on augmente les cotisations. Ben ça va être compliqué. Le MEDEF, le patron sont tout à fait contre, parce que ça reviendrait à augmenter le coût du travail. Alors finalement, qui est-ce qui reste ? Qui est-ce qui pourrait payer ? Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Ça pourrait être les cadres, hein, sur ceux qui gagnent plus de 10 000 euros, avec ce petit taux de cotisation.
Ce seraient les grands perdants de la réforme, en quelque sorte.
Il y a des chances. Ouais. Il y a une autre option, c'est l'impôt. Et oui, vous avez déjà entendu parler de la CRDS. Regardez sur votre fiche de paye. C'est cet impôt que vous payez pour réduire la dette sociale. Il est censé s'éteindre. Cet impôt est censé s'éteindre en 2024. Et si tout simplement, plutôt que la dette sociale, on le fléchait vers le financement des retraites, de toute manière, un impôt, c'est bien connu, ne disparaît jamais.
Merci beaucoup Dimitri, on va suivre évidemment ce qui se passe du côté de Matignon. Ça sera à partir de 8h30 ce matin, on change totalement de sujet.
On allège l'atmosphère.
On va alléger légèrement l'atmosphère, vous avez raison Élodie. Et vous nous proposez de voir un concert de musique classique au cinéma, quelle drôle d'idée.
Imaginez un concert de musique classique qui viendrait à vous, c'est-à-dire les plus grands interprètes au tarif d'une place de cinéma. Alors évidemment pas sur une scène, mais sur un grand écran avec ce que ça implique de force, de son et d'image. Alors mettre la musique classique au cinéma... C'est le projet de la société Neutra Productions qui s'est associée pour ça avec le plus prestigieux label de musique classique, le label jaune, c'est-à-dire Deutsche Grammophon, et avec le Centre des Monuments Nationaux pour créer Unique, une série de concerts filmés dont le premier a été enregistré par le prestigieux, prodigieux violoniste serbe Nemanja Radulović va être projeté ce week-end, le 12 en avant-première à Bordeaux, avant de sortir jeudi 23 janvier dans 250 villes en France.
Alors la retransmission au cinéma, ça existe avec l'opéra déjà ?
Oui, ça existe. Oui, vous avez raison, ça existe avec le théâtre, la Comédie Française le fait, et puis avec l'opéra. Pour la 12e saison consécutive, le Met de New York en France propose au public 10 opéras en direct des cinémas Pathé Live. Le Met a été vraiment leader mondial sur cette question. Il s'est positionné très tôt sur ce terrain et il a été presque victime de son succès. 26 millions de billets vendus depuis l'origine, 2200 salles, 70 pays, c'est un franc succès vraiment. Pathé Live retransmet aussi les ballets du Bolshoï, enfin une sélection, donc on pourra voir dans quelques semaines et Gisèle et le Lac des Cygnes à Paris, au cinéma, en France, partout. L'Opéra de Paris n'est pas en reste, on a vu la Traviata ne serait-ce qu'en septembre, à Londres c'est pareil, et tout le monde en fait se lance un peu dans cette stratégie qui correspond, je dirais, à cette ambition qu'ont toutes les salles de spectacle de musique classique, élargir le public, rajeunir le public, évidemment. C'est pas illogique donc que les formations musicales pures s'intéressent à ce terrain de jeu qui permet des tarifs plus abordables et puis une approche, je dirais, plus ludique, affranchie des codes et des salles de concert.
Alors revenons à ces concerts qui s'appellent donc Unique.
Voilà, Unique parce que c'est un musicien unique et surtout un lieu unique pour qu'on joigne la beauté de l'image à la beauté de la musique. Alors là, Nemanja Radulović et ses musiciens ont été enregistrés en plein air dans le site néolithique de Karnak. Vous savez, ces menhirs, ces 3000 menhirs qui ont été plantés il y a 7000 ans. Évidemment, il émane de cet endroit un mystère dont on sent qu'il a transcendé les musiciens. Nemanja Radulović n'a pas besoin de ça. Moi, je l'adore. C'est un musicien extraordinaire. Il a la douceur d'un ange et la virtuosité du diable. Voilà, Vivaldi et puis Rimsky-Korsakov, ce concert donc qui sera distribué partout en France au cinéma à partir du 23 janvier.
Merci Elodie, merci Dimitri, merci Bernard Sananès d'avoir été en ligne ce matin. Les spécialistes, comme tous les jours de la semaine, sur l'antenne de Radio Classique. Il entre dans ce studio, Marc Bourreau, pour son journal imprévisible, 7h49.